Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission de débat et d'information. Aujourd'hui, la thématique que nous avons choisi d'aborder avec nos invités, c'est la question de la sécurité, des politiques menées en matière de sécurité. On a beaucoup parlé de la police, de la justice, des institutions, mais aujourd'hui, on souhaitait prendre un tout petit peu de recul et réfléchir de manière un petit peu plus globale à la question de la sécurité dans notre pays et à la manière dont les différentes institutions ou les pouvoirs publics apportent ou non des solutions adéquates. Mon premier invité, c'est Driss Ayout Youssef. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en droit public, spécialiste de la sécurité globale et président de l'Institut Léonard de Vinci. Et il y a 8 jours, vous avez publié une tribune dans le journal du dimanche pour vous étonner, on peut le présenter comme ça, de la surenchère guerrière en matière de sécurité. Je pense que vous faisiez référence en particulier au discours des hommes politiques. Mais surtout, vous étiez un peu à contre-courant parce que vous nous dites finalement, cette surenchère de paroles, elle ne résout rien. Au contraire, elle crée un petit peu le fossé du scepticisme et de l'incompréhension. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous exprimer à ce moment-là et pour dire, pour tenir ces messages-là?
En fait, c'est le prolongement d'une réflexion, en tout cas d'analyse que je mène depuis maintenant quelques années sur finalement quels sont les effets des politiques publiques de sécurité, si on peut appeler des politiques publiques de sécurité, dans l'opinion publique et de manière plus concrète sur la délinquance. Et on s'aperçoit que depuis maintenant quelques années, on a toujours tout gouvernement confondu, gouvernement de droite comme gouvernement de gauche, où on est dans ce que moi j'appelle des surenchères guerrières verbales. C'est-à-dire qu'on a toujours à chaque fois le don de l'indignation légitime, à chaque fois qu'il y a un crime qui marque l'opinion publique. On est à la fois dans des attitudes qui sont en réalité des postures, même si quelquefois, à un moment donné, il y a des engagements pris en direction des forces de l'ordre. Mais en réalité, ça ne résout pas le problème, bien au contraire. Ça génère chez nos concitoyens à la fois de la frustration, de l'incompréhension, mais aussi du fatalisme. Pourquoi ? Parce que quand vous dites, à un moment donné, vous faites une sortie, et c'était mon propos dans cet article dans le journal du dimanche, quand vous dites, vous comparez finalement un certain nombre de territoires, de ces quartiers populaires, comme si ces quartiers étaient sous la coupe de cartels colombiens, vous dites que les forces de sécurité intérieure sont des soldats et qu'on est en guerre. C'est-à-dire que vous faites un parallèle qui est un parallèle dangereux avec ce qu'on peut voir dans d'autres pays, le Brésil, le Mexique, et puis vous donnez à un moment donné le change, ou en tout cas vous abondez dans le discours extrémiste du Rassemblement national depuis quelques années, qui considère qu'il faut envoyer les militaires dans des territoires de la République. Et donc ça, ce qui est navrant, c'est que on sait qu'on aura d'autres événements demain, parce qu'on est sur des dynamiques, et on doit raisonner en termes de dynamique. On ne doit pas raisonner sur un effet comme si une politique allait stopper le terrorisme et la délinquance dans notre pays. Et donc le fait, à un moment donné, de ne pas avoir de vision, ça pose une difficulté. Donc ça pose une difficulté, et puis on la remplace, cette vision, par des propos, par une surenchère, moi que je considère qu'est extrêmement dangereuse pour notre pays et pour l'opinion publique d'une manière générale.
Alors vous le dites, en général la sécurité revient au premier plan de l'actualité quand il y a évidemment des faits divers graves, il y en a eu ces derniers temps, lors également des attaques terroristes, il y en a eu aussi. Mais vous dites aussi parfois, c'est un sujet qui revient fortement dans l'opinion lorsque le gouvernement apparaît comme fragile ou en difficulté. Oui. Alors là, on a l'impression qu'on est un peu dans les deux situations finalement. C'est qu'à la fois, il y a des situations contextuelles, des circonstances aggravantes, si je puis dire, le terrorisme, des faits divers gravissimes. Et en même temps, le gouvernement semble aussi ne pas savoir sur quel pied danser.
Oui, parce que, si vous voulez, le problème, c'est que lorsque votre point de départ est faux, votre point d'arrivée, il est nécessairement faux. Et quand vous prenez le programme présidentiel donc d'Emmanuel Macron, on avait un projet qui, dans les grandes lignes, c'était 15 000 places de prison, 10 000 postes de policiers et de gendarmes en plus, un centre antiterroriste pour lutter contre Daesh. Et au fait, on pense qu'avec tout ça, on va réduire la délinquance dans notre pays. Et le tort, ça a été de considérer, et encore de considérer aujourd'hui, que la délinquance et le terrorisme dans notre pays, ce n'est que et uniquement l'affaire de la police et de la gendarmerie. Or, c'est faux. C'est faux. Si on considère ça comme ça, on a déjà perdu d'avance. Le ministre de l'Intérieur qui arrive et qui est intronisé quelques minutes après, qui explique qu'il en fera de son affaire de la délinquance et du terrorisme, il a déjà perdu. Et on le voit, tous ont échoué. Tous ceux qui avaient ce discours, alors avec plus ou moins une communication habile, tous ont échoué. Les bilans successifs des derniers ministres de l'Intérieur, à part quelques exceptions très rares, ont tous échoué. Il n'y a pas un gouvernement qui est capable aujourd'hui de dire « nous avons réussi sur le terrain de la délinquance et je mets le terrorisme de côté ». Donc le fait, à un moment donné, d'avoir ce point de départ qui est faux, fait qu'aujourd'hui, ce gouvernement est taxé de pas d'incompétent, mais de gouvernement qui n'a pas de vision, et on dit même que le président de la République est irrationnel ou le régalien, c'est pas trop son sujet, alors qu'on pouvait en dire autant de François Hollande et d'un Nicolas Sarkozy, qui a été certes ministre de l'Intérieur assez emblématique, mais qui a échoué en tant que président de la République. Donc il ne faut pas oublier que la révision générale des politiques publiques, qui a conduit à la suppression de 10 000 postes de policiers et de gendarmes, c'est Nicolas Sarkozy. Et pourtant, on a le sentiment que Nicolas Sarkozy était meilleur ministre de l'Intérieur ou meilleur président qu'Emmanuel Macron, ce qui est faux. Ce qui est faux. Le budget du ministère de l'Intérieur, depuis le début du quinquennat, a augmenté de 1,7 milliard, ce qui est quand même beaucoup. Et dans le même temps, on a une délinquance, une violence qui est en hausse. Et tous les indicateurs le montrent. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est ce mélange un peu de faits qui sont de plus en plus violents, qui marquent l'opinion publique à juste raison, et puis d'un gouvernement qui ne sait pas bien et qui multiplie les initiatives. On parle du livre blanc, de la sécurité intérieure, le schéma national du maintien de l'ordre, loi antiterroriste, loi pour le renseignement, interdiction de manifester, Beauvau de la sécurité, loi de programmation. Et au fait, on ne sait pas où le gouvernement veut aller en matière de prévention et de sécurité.
Alors, dans cette tribune du journal du dimanche, vous tenez un propos qui se veut, je dirais, un parler clair, un langage de vérité. Et là aussi, vous allez un peu à contre-courant des idées reçues, ou en tout cas de ce qui est véhiculé dans les discours politiques, puisque vous dites les mesures répressives, même les plus sévères, ne pourront jamais avoir que des effets limités. Or, le sentiment dominant, c'est que dans l'opinion et dans le discours de beaucoup d'élus, c'est au contraire par des actions encore plus répressives qu'on pourrait être plus efficace. Vous, finalement, vous niez cet effet de plus de répression égale plus d'efficacité.
Moi, je veux être factuel. Je veux être factuel. Et depuis des décennies, toutes les dispositions qui ont été votées et qui sont contenues aujourd'hui dans le code pénal visent à davantage aggraver les sanctions. Moi, je n'ai pas vu ces derniers mois une modification du code pénal avec une sanction allégée. Donc c'est faux de dire que on n'est pas assez répressif. Tout ce qu'on fait depuis maintenant des mois et des années vise à donner plus de pouvoir, en tout cas plus de missions à la sécurité privée, plus de pouvoir à la police municipale et plus de pouvoir à l'autorité administrative. La transposition du régime un peu d'exception contenu dans l'état d'urgence de la loi de 55 dans un dispositif de droit commun, notamment sur les surveillances individuelles, les saisies administratives qui sont des perquisitions administratives, qui sont des pouvoirs qu'on donne à l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, vise à un moment donné à se passer de l'autorité judiciaire. Donc on est sur un régime qui durcit, ou en tout cas qui diminue, ou en tout cas qui affaiblit les libertés. C'est une réalité qu'on ne peut pas contester. Et bien avec tout ça, vous avez une menace qui est toujours aussi importante en matière de terrorisme, et puis vous avez, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques qui démontrent que la délinquance aujourd'hui, on a une délinquance qui est de plus en plus violente. Donc oui, c'est un discours qui est à contre-courant de ce que je peux entendre ici et là, parce qu'on a quelquefois des postures politiques, qui consiste à dire, si on était plus sévère, mais on est plus sévère de quoi, avec quoi? J'entends, mais si on n'a plus d'immigrés en
France... C'est les peines planchers, par exemple. C'est les peines planchers, typiquement. Les syndicats de police, d'ailleurs, reviennent systématiquement, réclament dans toutes les manifestations, dans tous les mots d'ordre syndicaux. C'est la justice qui serait trop laxiste, et les mesures, ne seraient pas suffisamment... Les mesures sévères ne seraient pas suffisamment délivrées par la justice.
Oui, mais c'est les peines planchers. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des dispositions. En fait, pourquoi on fait les peines planchers ? Pour obliger les juges à être plus sévères. Parce que c'est ça, les peines planchers. Aujourd'hui, on a des dispositions dans le code pénal et on a un juge qui a une appréciation souveraine d'un fait et qui considère qu'au regard de la situation de l'individu, de sa personnalité, de la gravité des faits, eh ben, il fixe une peine. Et le tribunal, il est indépendant pour ça. Il est indépendant. Bon, ben, si le législateur, à un moment donné, n'est pas content, eh ben, il change la Constitution. Il change la loi et change la Constitution. Donc, c'est plus simple pour lui que de manifester devant l'Assemblée. Moi, ça me paraît... Moi, c'est quelque chose qui me... J'ai envie de dire, qui me dépasse un petit peu, parce que on a le sentiment qu'effectivement, avec des peines planchées ou avec des peines plus sévères, on va régler le problème. Non. Statistiquement, en tout cas, avec les statistiquement, c'est vrai, il y a plus... les peines sont plus sévères. Et le nombre de peines prononcées et le nombre de peines est plus important qu'en 2015. Donc on a, c'est pour ça qu'on parle de surpopulation carcérale. On est aujourd'hui à peu près à 125% de surpopulation carcérale et dans certains établissements 190%. Mais c'est pas une vue de l'esprit. C'est bien la preuve qu'on a des juges qui sont sévères. Mmh. On n'invente pas une
surpopulation. Oui, d'ailleurs, il est même souvent dit et expliqué que s'il y avait plus de places dans les prisons, on incarcérerait plus et que c'est souvent la surpopulation carcérale qui oblige soit des réductions de peine, soit effectivement à éviter des incarcérations supplémentaires.
Évidemment, à des peines alternatives. Mmh. Et je voudrais vous dire deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que le juge, lorsqu'il prononce une peine, évidemment, il va prendre en considération les éléments que je viens d'indiquer. Et puis ensuite, lui, il va aussi, encore une fois, être dans la proportionnalité. Mais la prison en soi, on n'a pas un problème de décision, on n'a pas un problème de peine, on n'a pas un problème de sévérité. C'est pas, on a un problème de traitement de la réponse pénale. Et que lorsque vous avez des places de prison en plus, et moi j'ai bien entendu le président de la République dire, au terme de son quinquennat, il aura engagé 15 000 places de prison, encore ensuite, faut-il travailler sur l'humain ? Parce que si on ne travaille pas l'humain, eh ben on ne prépare pas le détenu à sa réinsertion. Et c'est ça le rôle aussi de l'administration pénitentiaire. C'est pas que de dire on enferme un type pour un temps, et puis ensuite, voilà. Et on voit bien avec tous les articles, avec les rapports, les analyses des services de renseignement qui montrent qu'on a des individus, des détenus de droit commun qui aujourd'hui se sont radicalisés, ou alors on a des individus qui ont été emprisonnés pour, j'ai envie de dire, des actes délictuels et puis qui reviennent avec des actes encore plus violents. Aujourd'hui, la prison, elle désocialise davantage. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à enfermer parce que quand on a commis un crime ou un délit, il faut être sanctionné, mais que dans le même temps, il faut avoir une appréciation, une juste appréciation du traitement de la réponse pénale. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je voudrais vous prendre un élément. Aujourd'hui, dans les prisons françaises, vous avez dans nos prisons, vous avez 820 mineurs. Sur ces 820 mineurs, si on fait un prolongement, en tout cas une projection des statistiques, on a 78% de ces 820 mineurs qui vont récidiver. Et sur ces 820, donc vous avez 78% de récidive et vous avez 68% qui vont être à nouveau condamnés à de la prison ferme. Autrement dit, on va avoir presque 7 mineurs sur 10 qui retournera en prison.
Donc, c'est une statistique terrible.
C'est une statistique, on le sait, il n'y a rien qui ne se passe aujourd'hui qu'on ne sait pas. On sait faire des projections. Que fait-on ? Moi, je trouve que c'est bien de dire, je soutiens les policiers. Il faut effectivement que lorsqu'on touche à un policier, on s'attaque à la République et plein de choses et plein de choses. Moi, je suis pour le respect, évidemment, de l'autorité. Et dans le même temps, je pense que les policiers doivent se joindre aux organisations, en tout cas aux magistrats, aux juges, pour réclamer que les politiques jouent leur rôle, à la fois dans la prévention. Dans la prévention, c'est-à-dire aussi mettre en œuvre des dispositifs au sein de l'éducation. Qui s'est offusqué à la rentrée dernière, et c'est ce que je dis dans mon article, septembre dernier, qui s'est offusqué de ces milliers de gamins qui manquaient à l'appel? Moi, j'ai pas entendu le ministre de l'Éducation s'offusquer de cela. En septembre prochain, avec le confinement, avec l'année que nous avons vécue, qui est une année horrible pour les étudiants, il va encore manquer beaucoup d'étudiants à l'appel. Que fait-on pour aller les chercher? Parce que si on ne va pas les chercher aujourd'hui, ça va être un problème, j'ai envie de dire, ça va être un problème social, d'une certaine manière, c'est-à-dire un problème de société. Demain, ce sera un problème sécuritaire. Parce que les conséquences, elles vont être catastrophiques. Parce que lorsque vous privez les gamins d'un socle, j'ai envie de dire, élémentaire de connaissances pour préparer effectivement ces gamins à affronter un monde qui est un monde de plus en plus difficile, où l'information circule très vite, avec des fake news, avec des thèses complotistes, obscurantistes, antisémites, eh ben, on va avoir un problème, un vrai problème de cohésion. Et donc, et là-dessus, j'ai pas entendu des membres du gouvernement ou des missions d'information parlementaire s'inquiéter de cette situation. Ça, c'est de la vraie prévention. C'est ça la vraie prévention. La prévention, c'est pas de dire on va donner des moyens supplémentaires à la police municipale pour pouvoir verbaliser des individus dans des halls d'immeubles ou faire des contrôles routiers. Donc c'est là où je dis que quand il manque une vision. Il manque une vision pour une vraie politique publique de sécurité.
Justement, comment on sort de cette mâchoire un peu infernale entre, on le voit en ce moment, c'est très illustré, hein, on a des forces de l'ordre qui se mobilisent, bon, avec un discours pour certains assez radical. De l'autre côté, un gouvernement qui semble suivre le mouvement et tout un tas de discours politiques autour qui ne parlent finalement que de répression, de moyens supplémentaires pour la police. On voit effectivement pas très bien d'autres discours, d'autres visions, et comment est-ce qu'on sort de cet étau ?
Bah parce que moi je considère que le président n'a pas forcément échoué, mais je pense que là où il a échoué, c'est à un moment donné à prendre le problème différemment de ses prédécesseurs. Je pense qu'il faut dire la vérité aux Français. Je pense qu'il faut avoir un constat lucide et objectif de la situation. Il faut dire la vérité. Il faut dire que le problème terroriste, on n'arrête pas de le dire, le problème aujourd'hui de la délinquance, c'est un problème long terme. C'est pas un problème qui s'arrêtera dans 15 jours parce qu'on a décrété manifestation à l'appui que ça suffit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, il faut avoir cette vision, une vision de long terme. Si on est sur une trajectoire qui est une trajectoire long terme, il faut aussi avoir une vision long terme. Et cette vision long terme, elle vise, d'une certaine manière, à prendre deux éléments. Quand on parle de la prévention et la sécurité, il faut redessiner ce duo. Il y a une éducation, prévention d'une part, et répression, réinsertion d'autre part. L'éducation nationale a un rôle important dans la prévention. Les collectivités, elles ont un rôle important dans la prévention, au même titre que la parentalité. Ça, c'est un peu le volet, un peu éducation-prévention. Et puis ensuite, après, il y a effectivement la police, la prison, qui peuvent jouer un rôle dans la répression, dans la réinsertion. C'est leur métier, donc il ne faut pas tout mélanger. Quand on donne la dernière loi de sécurité globale, elle donne des pouvoirs supplémentaires à la police municipale. On est en train d'éloigner les collectivités de leur vrai cœur de métier. Les collectivités, c'est la police administrative, c'est la prévention. Le maire, il n'a pas de rôle répressif. Et vous le savez mieux que moi, quand on commence à donner à un maire l'autorisation ou des pouvoirs visant à faire de la police judiciaire, de la répression, eh ben on commence à se perdre à un moment donné dans les prérogatives et on va créer une espèce de dualité entre les polices. Et ça, c'est pas bon pour notre pays, puisqu'une ville qui aura les moyens, elle va se doter d'une police municipale chèrement payée, très dotée, très armée, et on aura des inégalités, parce que là où vous avez dans des communes comme ça, vous allez avoir peut-être un peu moins de police nationale, etc. etc. Donc c'est ça d'avoir une vision. C'est ça de considérer que l'échec scolaire, le décrochage scolaire, c'est l'antichambre de la délinquance, qui est aussi l'antichambre du terrorisme. Mais prenons des exemples très concrets, et je vais rester factuel. Vous prenez les terroristes, ceux qui ont semé des horreurs dans nos rues, et vous prenez leur profil, ils sont nés en France, ont fréquenté quelques écoles de la République, peu ou pas diplômés, et pour un certain nombre d'entre eux, des primo-délinquants. Mais ça ne nous suffit pas comme analyse. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être court-termiste et raisonner à la prochaine élection. Je pense qu'il faut dire la vérité aux Français, de dire, voilà, on va vous proposer des choses, mais ça sera long terme, et il n'y aura pas d'amélioration à court terme. Parce que c'est la réalité. Et que à peine on a terminé du policier sauvagement tué à Avignon, qu'on a un autre policier qui a été sauvagement agressé et qui est resté quelques jours dans le coma. Mais c'est bien la preuve que ça ne s'arrêtera pas. Parce qu'on a quand même une génération qui est en train d'arriver, qui est une génération ultra violente, où la violence est son mode d'expression du quotidien. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit.
Merci Driss Saïd Youssef pour cet entretien sans détour. Merci pour votre franchise. On aura, j'espère, le plaisir de vous recroiser dans d'autres émissions. Merci en tout cas encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, c'est la deuxième partie de l'émission avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. À tout de suite.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications ? Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Dans la deuxième partie, nous recevons Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexis.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire qui est partenaire de notre émission de débat et d'information. La première partie de l'émission, nous avons reçu Driss Aït Youssef qui est spécialiste des questions de sécurité, président de l'Institut Léonard de Vinci et qui a publié il y a 8 jours une tribune qui était un petit peu finalement cinglante pour le gouvernement mais aussi parfois pour la classe politique puisque il disait, en prenant un petit peu le contre-pied de ce qu'on entend depuis quelques semaines, finalement, en matière de sécurité, la surenchère guerrière ne résout rien, dit-il.
Oui, certainement, en l'occurrence. Sauf que il y a un climat, il y a une atmosphère politique, il y a manifestement aussi une médiatisation hein, d'un certain nombre d'événements qui impacte profondément l'opinion publique et que ce à quoi nous assistons depuis maintenant quelques mois, c'est à une montée de cet enjeu dans l'agenda de l'opinion publique. Donc cette montée de l'enjeu dans l'opinion publique fait que aujourd'hui le champ politique se saisit de cette question. Il s'en saisit d'autant plus que Emmanuel Macron est certainement considéré depuis le début de son mandat comme un président qui, sur les questions régaliennes, est vraisemblablement plus faible que sur les questions économiques et sociales. Donc on voit bien qu'il y a un angle d'attaque, notamment pour la droite, qu'il s'agisse à la fois des Républicains, mais aussi du Rassemblement National, pour mettre en difficulté Emmanuel Macron, au moment où, notamment, Emmanuel Macron s'efforce de capter une partie de cet électorat, notamment une partie de l'électorat républicain. Donc, il y a bien évidemment derrière, disons, cette visibilité aujourd'hui très forte de l'enjeu de la sécurité, des rapports de force politiques qui expliquent aussi le fait que cet enjeu soit aujourd'hui très présent dans le débat.
Alors, selon Driss Aït Youssef, il y a beaucoup de postures dans cette surenchère, je dirais, du tout répressif, on va dire, dans une sorte de fuite en avant du tout répressif, en tout cas dans les discours. Et il considère, lui, que les mesures répressives, même les plus sévères, ne pourront avoir que des effets limités, parce que, dit-il, si on aborde la sécurité uniquement sous un angle purement sécuritaire et qu'on ne traite pas les questions de justice, de prévention, d'éducation, bref, si on n'a pas une approche plus globale, de toute façon, ça ne pourra conduire qu'à l'échec, donc à plus de frustration et peut-être même plus de fuite en avant.
Oui, évidemment, il est clair que, je veux dire, une politique en matière de sécurité ne peut avoir une pleine efficacité, même s'il ne s'agit pas de laisser de côté quand même la question de la sanction, qui est importante aussi, en l'occurrence, ne peut avoir sa pleine efficacité que si elle est accompagnée d'un certain nombre de mesures qui dépassent le seul champ sécuritaire. C'est, j'allais dire, presque une logique de bon sens que de préconiser une politique publique qui soit une politique publique globale dans ce domaine.
Bon, c'est pas tellement quand même la tonalité du moment.
Non, c'est pas la tonalité du moment parce que il y a vraisemblablement encore une fois sur le terrain une perception de la part d'un certain nombre d'acteurs politiques que cet enjeu sera l'enjeu peut-être matriciel des futures échéances électorales et notamment de l'élection présidentielle. Il y a aujourd'hui clairement une survisibilité de cet enjeu parce que il y a dans un an une élection présidentielle qui se fera aussi autour de la question de l'autorité et du régalien. Donc ceci pouvant expliquer vraisemblablement aussi les prises de position des différents acteurs politiques. Ce que je note d'ailleurs, c'est que quand même, et ça c'est important de le signaler, c'est qu'aujourd'hui, même un certain nombre de formations de gauche considèrent que l'enjeu de la sécurité sera un enjeu important. Regardez par exemple l'évolution du candidat communiste Fabien Roussel, qui lui aussi fait de la sécurité un enjeu important de ses priorités politiques. Et il a d'ailleurs assez raison, parce que, en l'occurrence, ce qu'il nous dit là, et ce qui est démontré d'ailleurs, c'est que ce sont bien évidemment les classes populaires, voire les classes moyennes, qui sont les plus exposées socialement au phénomène d'insécurité. Donc, on voit que ce sujet aujourd'hui balaye l'ensemble du jeu et du champ politique, et il y a fort à parier qu'il restera dans l'agenda politique jusqu'à la présidentielle. Alors après, il reste à savoir si d'autres sujets ou d'autres enjeux viendront le concurrencer. Évidemment, on a quand même la question des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, qui ne manqueront pas aussi de s'inviter dans le débat politique dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Alors, il y en a un, en tout cas, au gouvernement qui semble vouloir maintenir le sujet à l'agenda le plus longtemps possible, c'est Gérald Darmanin, qui depuis plusieurs mois, parce que ça a commencé, je pense, avec la loi sécurité globale, le fameux article 24, et depuis, eh bien, on assiste à un festival de prise de position, jusqu'effectivement cette participation controversée à une manifestation de la police contre le pouvoir en place, hein, à laquelle le ministre s'est joint, et cette réactivation du vieux clivage entre la place Vendôme et la place Beauvau, où la place Vendôme symboliserait une forme de laxisme, de relâchement, la justice, hein, et de l'autre côté, eh bien, la place Beauvau, l'ordre, l'autorité et la répression.
Alors la réalité, c'est que de toute façon, Gérald Darmanin, depuis qu'il est devenu ministre de l'Intérieur, a été, j'allais dire, recruté en termes de ressources humaines gouvernementales
casting
pour tenir ce rôle. C'est son profil de poste depuis le début, parce qu'il faut se souvenir et ne jamais oublier qu'il succède à M. Castaner au moment où un climat, en tout cas de défiance, semble s'installer entre la police et le ministre de l'Intérieur. Donc depuis, il est, disons, dans une entreprise qui consiste à rattraper le terrain perdu par l'exécutif dans la relation qu'il entend tisser avec la police. Alors ensuite, il est évident que la participation du ministre de l'Intérieur à la manifestation qui s'est déroulée sous les fenêtres de l'Assemblée nationale est en effet un exercice assez inédit, car comme vous le dites justement, on a l'impression d'avoir un ministre un peu schizophrène qui d'un côté est ministre et de l'autre qui est manifestant et qui manifesterait presque contre la propre politique de son gouvernement. Mais on voit bien que cette stratégie, que cette présence, elle obéit justement à cette stratégie de coller au maximum au syndicat de police. Donc je dirais qu'il est finalement aujourd'hui dans la feuille de route qui lui a été vraisemblablement octroyée par le président de la République et qui la suit au millimètre près, au risque en effet d'apparaître excessif dans ses postures. Il y a un autre sujet qu'il faut quand même prendre en compte aujourd'hui aussi, qui est important et qui ne touche pas seulement la police. Il y a à l'intérieur de l'État un climat à bas bruit, voire parfois de manière plus explicite, qui est en train de s'installer entre un certain nombre de corps régaliens de l'État et l'exécutif. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau en l'occurrence. On a vu, on a bien sûr parlé il y a peu de la fameuse tribune des militaires. Il y a évidemment les prises de position des syndicats de police. Il y a également un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est la réaction d'un certain nombre de préfets en retraite qui expriment de fait ouvertement le sentiment du corps préfectoral face à l'annonce de Emmanuel Macron et du Premier ministre plutôt de supprimer ce corps. Il y a, disons, dans les rouages de l'État aujourd'hui une sorte de sentiment de défiance qui s'est installé dans sa relation avec le pouvoir politique. Donc Gérald Darmanin, il est, disons, celui qui aujourd'hui essaye de colmater la brèche, en tout cas au moins avec la police. Alors, y réussit-il, ça, seul l'avenir nous le dira, mais en l'occurrence, en effet, sa position, elle est vraiment dictée par cette priorité politique et par le rôle qu'on lui assigne dans le dispositif gouvernemental.
Alors, s'il s'applique effectivement à rétablir une forme de confiance entre le gouvernement et en particulier l'institution policière, le moins qu'on puisse dire, c'est que du coup, ça focalise toute l'attention sur les questions, des moyens de la police, la nécessaire évolution pour certains du code pénal vers les peines planchers, d'une mise sous tutelle même certains de la justice, des décisions de justice. Mais du coup, on n'est pas dans une approche globale, on est plutôt dans une approche un petit peu purement répressive, là où il y aurait besoin aussi de parler de la lutte contre la récidive, hein, répression mais réinsertion, et là aussi où le couple prévention-éducation a été particulièrement malmené ces dernières années, c'est ce que nous rappelait Drissa et Toussef, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a quasiment plus à l'échelle nationale de politique de prévention digne de ce nom, qui a été renvoyé souvent vers les acteurs locaux de terrain, qui eux-mêmes ont été dépouillés de moyens par les différentes lois de finances.
Oui, alors bien sûr, la question des moyens, elle se pose. Et d'ailleurs, ce que l'on peut voir, c'est que les revendications des syndicats de police sont d'ailleurs et prioritairement axées sur cette question des moyens. Je rappelle aussi qu'il y a actuellement en cours, même si les réunions ne se sont pas tenues depuis maintenant un certain nombre de semaines, un Beauvau de la sécurité qui est censé justement permettre de mettre sur la table l'ensemble des problèmes auxquels aujourd'hui sont confrontés les policiers, non seulement sur le plan matériel, mais également sur leur relation avec la justice. Donc ça, c'est un fait qui est, me semble-t-il, important. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la réalité, c'est que Gérald Darmanin, lui, il fait de la politique, clairement. C'est-à-dire que non seulement il veut s'assurer, comme on l'a dit, d'une relation soutenue avec la police et les syndicats de police, mais il regarde aussi les études qui sont les études d'opinion. Et les études d'opinion montrent qu'il y a une demande de sécurité, une demande de répression dans l'opinion publique, et il pense vraisemblablement aujourd'hui, en adoptant cette posture de premier flic de France intraitable sur la question des sanctions, sur la question du soutien à sa police, vraisemblablement collé au plus près de l'opinion publique. On a un ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui, clairement, est plus à la tâche sur le plan d'une forme de reconquête politique plutôt que de traiter, disons, de manière fine, les questions qui sont les questions que vous soulevez, c'est-à-dire les questions de moyens.
On est plus dans la posture que la recherche d'efficacité.
Vraisemblablement, on est dans un climat politique aujourd'hui qui est un climat politique électoral avec des élections régionales et départementales et un climat préélectoral avec des élections présidentielles. Il va de soi que les positions aujourd'hui du ministre de l'Intérieur sont des positions qui sont dictées aussi par cet agenda.
Un agenda politique. Eh bien, merci Arnaud Benedetti pour avoir répondu à nos questions. On essaye de comprendre un petit peu, d'analyser la situation politique qui est particulièrement dense et voire même un petit peu confuse, puisque après avoir annoncé un dépôt de plainte contre Odette Pulvar, le ministre a fait machine arrière, semble-t-il. Donc là aussi, ça rajoute un petit peu à la confusion. C'était l'émission Et si on en parlait sur Radio Orient. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci, à très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.